Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du dimanche soir face à Youfoll jusqu'à 21h. Bonsoir Yvan.
Bonsoir.
Et avec nous ce soir, Gabriel Cluzel. Bonsoir Gabriel.
Bonsoir.
Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Dans un instant le sommaire, mais tout de suite le rappel des titres. Et c'est avec vous, Arthur Muriau.
Une nouvelle fusillade a éclaté à Marseille. Un jeune homme de 21 ans est décédé. Deux autres individus ont été blessés. Les faits se sont déroulés cette nuit, avenue Camille Pelletan, dans le 3e arrondissement de la ville. Aucun motif n'a encore été donné, mais il pourrait s'agir d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Marseille. Plus de deux semaines après la mort de Mahsa Amini et le début du mouvement de contestation en Iran, une manifestation en soutien aux femmes iraniennes a eu lieu aujourd'hui à Paris. Leur objectif, porter la voix de l'Iran. Depuis le début de la contestation, au moins 92 personnes ont été tuées par la répression des autorités iraniennes. En Indonésie, un mouvement de foule dans un stade à l'est de l'île de Java a fait 125 morts et des centaines de blessés. Ce drame est intervenu samedi soir lorsque des fans de l'équipe locale de Arema FC ont pénétré sur le terrain après la défaite de leur équipe. La police a répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène, entraînant ce mouvement de foule qui a donc viré à la catastrophe. Pour le moment, les autorités qualifient cet événement tragique d'émeute. Plusieurs milliers de personnes étaient réunies dans le centre de Barcelone. Il s'agit d'indépendantistes catalans commémorant les 5 ans du référendum illégal sur la sécession avec l'Espagne. Le président de la région Catalogne a pris la parole à la télévision et précise que le 1er octobre 2017 resterait un jour historique faisant partie de la mémoire collective. Dans les derniers sondages, 52% des Catalans restent encore opposés à l'indépendance.
Face à Youfoll, au sommaire ce soir, une semaine après la victoire du bloc des droites aux législatives italiennes, les uns alertent sur le retour des néofascistes, les autres y voient un signe fort d'une défiance envers l'Union européenne. Alors assiste-t-on en Europe à un basculement populiste? L'analyse d'Yvan Youfoll à suivre. Avec la reconnaissance officielle par la Russie des territoires conquis de l'Ukraine, Vladimir Poutine a dressé dans son discours son pays contre l'Occident et la menace nucléaire plus que jamais dans les esprits. Tandis qu'Emmanuel Macron promet de nouvelles sanctions, alors allons-nous vers la guerre généralisée? On en parle dans un instant. Et puis l'invité d'Yvan Youfoll ce soir, Ferhat Menehi, réfugié politique né en Algérie, président du gouvernement provisoire kabyle. Avec lui, Yvan, vous reviendrez sur le sort de la communauté kabyle en Algérie, sa place en France, mais aussi sur la question de l'islamisme. Face à Youfoll, c'est parti. Vous pouvez réagir avec le hashtag Face à Youfoll sur les réseaux. Mais avant, Yvan, un mot sur ces manifestations en Iran et ces rassemblements de soutien aux Iraniennes qui ont eu lieu dans le monde entier, notamment à Paris. Vous y étiez d'ailleurs, Yvan. Est-ce que ces manifestations, selon vous, elles peuvent ébranler le régime iranien aujourd'hui?
On pourrait bien entendu l'espérer. Nous constatons déjà que depuis le 16 septembre, c'est-à-dire depuis le jour où Mahsa Amini a été tuée parce qu'elle faisait voir une partie de ses cheveux, le mouvement ne s'est pas essoufflé, mais au contraire, le mouvement en Iran en tout cas, C'est propagé dans d'autres villes et même des petites villes et même auprès de la classe moyenne. Et vous avez même aujourd'hui, vous avez vu les hommes qui viennent rejoindre ces femmes très courageuses. Vous avez eu des joueurs de football qui ont également fait savoir qu'ils étaient solidaires de cette cause féministe-là, authentiquement féministe. Et donc notre admiration doit être immense naturellement pour le courage de ces femmes-là qui prennent le risque et qui parfois meurent. Précisément pour montrer qu'elles ne veulent pas de ce voile qui les asservit, de ce symbole politique que veut imposer le régime des Mollahs, car on a bien compris que si ce voile était ôté, ce régime des Mollahs ne verrait plus se serait fragilisé dans ses fondamentaux même. Donc cela donne quand même une idée de ce que représente le voile. Et effectivement, il y a eu des manifestations de soutien. J'ai été à la manifestation de soutien tout à l'heure, place de la République, mais c'était une manifestation de soutien qui m'a tout à fait interloqué dans la mesure où les organisateurs n'avaient invité pour venir soutenir, en tout cas pour prendre la parole, que cette gauche qui précisément en novembre 2019 avait manifesté auprès des islamistes et des femmes voilées pour protester contre l'islamophobie. J'ai entendu Mme Sandrine Rousseau, qui d'ailleurs s'est fait abondamment siffler, Dieu merci,
effectivement,
apporter son soutien tout à fait incongru au combat de ces femmes-là. J'ai entendu Olivier Faure, le secrétaire général du Parti Socialiste, qui également était dans cette manif de la honte de novembre 2019, apporter son soutien également avec une totale indécence à ces femmes-là. J'ai entendu Mme Rossignol, j'ai entendu Mme Manon Aubry, j'ai entendu un message de Mme Hidalgo. Et donc, naturellement, il est tout à fait odieux de voir que cette gauche tartuffe se précipite pour essayer de récupérer ce mouvement extraordinaire qui est celui d'une libération des femmes. Et donc, je m'étonne que les organisateurs aient pu, en effet, tomber dans ce piège d'une récupération grossière tendue par cette gauche-là, cette gauche donneuse de leçons, qui ne se remet pas en question. Et encore une fois, elle ne semble pas prendre la mesure de leur combat qui, en France, est de défendre le port du voile pour les femmes qui le réclament, sans voir que ce voile-là est effectivement un acte de soumission politique. Et c'est ce que répètent ces femmes iraniennes-là. Donc voilà, je pense que je ne sais pas si le régime des mollahs sera ébranlé. Un des intervenants a dit que le régime des mollahs n'était plus qu'un cheveu. Avec un clin d'œil, naturellement, sur ce combat les cheveux apparents qui semblent les rendre fous. Mais je crains malheureusement que ce régime-là, qui a déjà résisté à des embargos depuis maintenant des années et des années, ne se soit installé par la terreur qu'il suscite, ne se soit installé dans la durée.
Alors Gabriel Cluzel, c'est vrai qu'au début, certains dénonçaient le silence finalement des féministes de cette gauche. Aujourd'hui, Yvan parle d'une récupération politique. Vous faites ce constat-là également ?
Oui, on a senti un profond malaise au départ cette révolte est montée en Iran. Et de fait, on comprend que le logiciel de nos féministes avait un peu de mal à se reconfigurer, évidemment, parce que pendant que les femmes se dévoilaient au péril de leur vie, comme vous l'avez dit, en Iran, eh bien, nos féministes continuaient à se voiler la face largement sur ces sujets-là. Elles ont eu beaucoup de mal à se reconfigurer et elles sont arrivées sur une espèce de position schizophrène. Vous voyez, vous connaissez la phrase de Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Donc le voile islamique, c'est pas bien en Iran, mais le voile islamique, c'est finalement très bien en France. Alors pour Sandrine Rousseau, spécialement le grand écart est difficile. C'était quand même assez gonflé de sa part d'aller là-bas, parce que on se souvient, les réseaux sociaux n'ont aucune pitié et les vidéos tournent, n'ont aucune pitié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de droit à l'oubli. Et elle, sur LCP, elle avait dit que pour elle, le voile islamique pouvait être un embellissement. Vous voyez, alors on pourrait demander aux Iraniennes ce qu'elles en pensent, mais je pense qu'elles ne sont pas tout à fait d'accord. Je rappelle par ailleurs que, dans un autre registre, Caroline de Haas et Alice Coffin, deux féministes ayant pignon sur rue chez nous, avaient signé la pétition pour le burkini en mai « Mets ce qu'il te plaît » pour soutenir les femmes qui souhaitaient se baigner en burkini. Et c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur nos féministes qui ont complètement basculé. On se souvient que Benoît de Groult, vous savez, la féministe s'il en est, qui avait écrit Ainsi soit-elle dans les années 70, avait des mots très durs à l'endroit de l'islam et de la condition féminine dans les pays où régnait la loi de l'islam, la charia. Et nos féministes, elles, ont complètement viré, tout simplement parce que elles ont fait le choix de la lutte pour la diversité et que la femme est restée sur le bord du chemin, évidemment.
Et on suivra en tout cas l'évolution de ces manifestations en Iran, bien évidemment, sur CNews. On va s'intéresser à présent, Yvan, aux suites de la victoire de l'Union des droites la semaine dernière en Italie. Alors, sans surprise, l'Union des droites a remporté haut la main ces élections législatives. Est-ce que, Yvan, vous y voyez l'annonce d'un mouvement de fond en Europe ?
Oui, incontestablement. D'abord parce que ce mouvement de fond a déjà commencé. Il avait commencé dans l'Europe centrale, en Hongrie, en Pologne, etc. Il avait naturellement abouti très récemment en Suède avec la victoire de ce grand parti, de cette grande union des droites qui a balayé la social-démocratie. Il se confirme aujourd'hui en Italie. Il pourrait se confirmer demain en Espagne. Et on voit bien qu'il y a ses prémices également en France. Donc ce que l'on voit apparaître, et un peu partout dans le fond, dans le monde, c'est un grand basculement civilisationnel avec, on en reparlera peut-être tout à l'heure si on a le temps, cette perte d'hégémonie de l'Occident qui fait en sorte d'avoir à partager maintenant son pouvoir avec un contre-modèle, dans le fond, qui apparaît à travers la Russie, mais à travers ses alliés. Et puis il y a également, plus généralement, un grand basculement idéologique, c'est-à-dire que l'on voit bien que En 50 ans d'hégémonisme idéologique multiculturel sur les bienfaits de la diversité, sur les bienfaits de ce nouveau monde dans lequel nous devions tous adhérer. Rappelez-vous de Nicolas Sarkozy en 2005, disait qu'il était impératif aujourd'hui d'avoir à accélérer la mutation vers le mondialisme et d'avoir à accélérer de gré ou de force notre propre métissage. Vous voyez bien que toutes ces idéologies-là, tombent en miettes auprès, parce que précisément les gens ne les partagent pas et ne les vivent pas tels que les idéologues les avaient voulu. Et donc il y a une véritable révolution. J'ai déjà dit plusieurs fois ici que nous vivions une période révolutionnaire. Mm-hmm. Cette période révolutionnaire est en train de s'accélérer, elle s'accélère à tout point de vue, et je crois que nous assistons là, en effet, à l'effondrement des idéologies. Et l'Italie vient confirmer naturellement ce point-là, avec ce réveil des peuples et des nations, et avec, dans le fond, cette révélation qui est de constater que l'Union européenne, qui s'était construite elle-même sur un état de droit élaboré par les juges et qui était celui d'avoir à imposer cet ordre mondialiste multiculturel diversitaire où l'autre avait toute sa place et où l'hôte avait à s'effacer au prétexte qu'il devait partager sa place. Alors on voit bien que ce monde-là et ce monde cautionné par l'Union européenne s'effondre également et que l'Union européenne elle-même, dans le fond, va être amenée, de mon point de vue, encerclée qu'elle est aujourd'hui par ce réveil du populisme qu'elle déteste, va être amenée, me semble-t-il, à revoir ses fondamentaux. Et l'on a bien vu, par exemple, que les menaces de Mme von der Leyen avant le vote des Italiens, disant qu'ils avaient intérêt à bien voter, sinon ils seraient sanctionnés comme les Hongrois ou comme les Polonais. Cette menace-là n'a servi à rien, Dieu merci.
Alors on va s'intéresser aux réactions en France, puisque la gauche, elle alerte sur le retour des néofascistes au pouvoir en Italie. Est-ce que ces craintes, Yvan, pour vous, elles sont fondées ?
C'est toujours la même chose avec la gauche. J'ai entendu effectivement Madame Hidalgo dire qu'elle y voyait avec cette victoire de l'Union des droites italiennes le retour aux pires histoires de notre. Au retour aux heures sombres de notre histoire, le cliché habituel, en oubliant que le Parti socialiste, d'abord, s'est allié encore récemment avec le Parti communiste, qui lui-même, malgré tout, dans son histoire, a pactisé avec le nazisme, en tout cas durant 2 ans, que les directeurs de l'Humanité d'alors avaient fait une démarche auprès de l'occupant allemand pour pouvoir faire paraître le journal, il n'avait pas réussi d'ailleurs, que l'extrême gauche qui s'offusque a également cautionné les pires dérives maoïstes ou polpotistes, etc. Donc on voit bien que cette posture est une posture qui est destinée à faire taire naturellement et à décrédibiliser ce mouvement réactif qui apparaît un peu partout. Mais il me semble, et là je m'abrite derrière les spécialistes dans le fond de la politique italienne, que si effectivement le mouvement qui a été donné vainqueur est issu bien sûr en effet du fascisme à travers le MSI qui a été construit en 1946, son évolution est telle que même les Italiens aujourd'hui s'accordent à dire qu'il n'y a plus rien de fasciste dans cette organisation-là et que tout au contraire, vous apercevez que l'organisation de Mme Meloni est très atlantiste, très pro-américaine, pro-Ukraine. Très libérale, dans le fond, donc elle n'a pas du tout les fondamentaux de ce que pourrait être un régime fasciste, mais en effet, elle défend, bien sûr, l'identité italienne, elle est violemment contre l'immigration de peuplement, elle entend même faire des blocus afin de freiner les importations, les invasions, dans le fond, cautionnées par les navires humanitaires. Donc, en effet, elle est conservatrice, conservatrice libérale, mais elle n'est en tout cas, de mon point de vue et du point de vue de tous les spécialistes des mouvements extrêmes, elle n'est pas naturellement fasciste et l'Italie ne tombe pas dans le fascisme, bien sûr.
Gabriel,
sauf à vouloir ne pas voir ce qui se passe.
On entendait Yvan dire que c'est la gauche, finalement, qui produit ce mouvement conservateur, cette révolte des peuples. C'est le cas, selon vous, vraiment ?
Oui, je crois que ce sont les excès, les folies de la gauche qui poussent les peuples à aller, ou par exemple le peuple italien à aller vers Giorgia Meloni. Il faut voir que Giorgia Meloni, la vidéo qu'il a rendue célèbre, enfin il y a un petit extrait qui a été remixé au début d'ailleurs à des fins pour la critiquer, si vous voulez, des fins critiques et qui aujourd'hui est devenu son succès. C'est un petit extrait où elle dit « Je suis une femme, je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une Italienne, je suis une mère, je suis chrétienne ». C'est quelque chose que pourraient dire beaucoup de femmes italiennes sur le fond, et la gauche poussait des cris d'orfraie parce que ce n'était pas tout à fait wokiste, c'est certain. Alors, Yvan disait à juste titre qu'il y a eu un florilège de réduction ad Mussolinium qui est quand même une paresse de la pensée absolument énorme. Alors, pour un peu ripolliner tout ça, customiser, vous savez, pour le rajeunir, on mettait des préfixes post-fasciste, néo-fasciste, on pourrait en faire à l'infini, un métafasciste, parafasciste, périfasciste, crypto-fasciste. Moi, je peux vous en sortir tout un rayon. Mais évidemment, ça n'a absolument aucun sens. Pour une femme, je le rappelle, qui est quand même née en 1977, donc la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas vraiment son sujet. Et c'est quand même le signe de la grande vacuité de l'opposition à cette montée des populismes, selon le mot consacré, parce qu'on renvoie tout à la dernière guerre. C'est d'ailleurs une question, une manie française. Hein. Vous savez, pendant la guerre de 14-18, les soldats avaient des pantalons Garance qui en ont fait des cibles incroyables. La guerre de 40, on avait la ligne Maginot qui était parfaite, mais qui a été d'une nullité, une inutilité absolue, parce qu'on était figé sur la guerre d'avant. Donc on a l'art de faire toujours la guerre d'avant. Donc là, c'est la même chose. Je pense que Giorgia Meloni séduit, et comme nombre de personnes de son style à travers l'Europe, tout simplement parce qu'elle est la femme des identités, et de toutes les identités, l'identité italienne, mais aussi, par exemple, en matière de genre, de sexe, elle revendique être une femme. Hein, toutes ces théories qui alimentent le mouvement woke, eh bien, elle les rejette en bloc. Alors, ça fait d'elle une conservatrice, mais beaucoup diraient que ça fait simplement quelqu'un qui s'est fait la candidate du bon sens. Je crois que ce qui peut lui arriver de pire en réalité, ce qui peut arriver de pire aux Italiens, c'est qu'elle soit en réalité paralysée. Parce que de la même manière que Salvini a déçu quand même par une forme d'édulcoration de in fine de son action, eh bien elle sera quand même évidemment ficelée par exemple par l'Europe. Ça c'est une évidence. Et dans une Italie qui est très dépendante des crédits européens. Donc ce sera évidemment une grosse difficulté. C'est évident pour Giorgia Meloni. Rien n'est joué.
Yvan, pour revenir sur la gauche, est-ce qu'on peut dire qu'elle est responsable de tout? Elle n'est pas responsable de tout ce qui va mal, la gauche?
Si. Je pense que alors naturellement la droite a cautionné tout ça, mais la droite telle qu'elle est apparue ces 30 ou 40 dernières années a été une droite mimétique, a été une droite transparente, a été une droite qui s'est effacée devant l'hégémonisme intellectuel incontestable qu'a eu la gauche à travers son progressisme et qu'a eu la gauche à travers cette certitude qu'elle avait de défendre un monde meilleur à travers ces bons sentiments qui étaient de se nourrir à l'autre, de s'effacer soi-même, enfin de ce mondialisme-là, de ce mondialisme à penser. Et j'en veux pour preuve quelques exemples qui nous pètent à la figure, si je puis dire, pardon de cette expression. Mais voyez la ville de Nantes, par exemple, une ville que je connais bien, parce que j'y ai été journaliste dans ma jeunesse et j'y ai même fait les faits divers. Je peux vous assurer que les faits divers à Nantes, dans les années 70, c'était absolument rien. C'était des chutes de vélo, c'était des concours de boules qui tournaient mal ou des beuveries, etc. Donc je ne fais pas un dessin aujourd'hui de ce qu'est devenu Nantes avec cette flambée invraisemblable de la violence gratuite qui maintenant inonde tous les journaux télévisés et tous les journaux tout court depuis quelques années. Or, Nantes a été le réceptacle d'une expérimentation de peuplement et dont je tiens Jean-Marc Ayrault, pardon, l'ancien maire de Nantes, qui est resté maire de Nantes pendant 23 ans, tout de même ancien maire de Nantes socialiste, puis ensuite Premier ministre, pour premier des responsables. C'est-à-dire que Nantes a été, de mon point de vue, une expérimentation de ce qu'on a appelé la société ouverte, de ce qui a été la société ouverte applaudie par tout le monde dans les années 80-90, et avec les dégâts que l'on a vus apparaître, parce qu'on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu penser que ce peuplement nouveau pouvait effectivement n'arriver qu'avec ses propres règles, ses propres lois, ses propres mœurs, et qu'il y avait à la marge, mais parfois même pas, mais plus qu'à la marge, des incompatibilités avec les mœurs du pays hôte. Donc on a cet effondrement de Nantes, qui est un effondrement qui est également généralisé dans les autres villes de province naturellement, qui montre bien à quel point il y a eu un impensé idéologique sur ce problème-là. Mais je pourrais également vous faire remarquer que l'effondrement de l'idéologie écologiste de la même manière nous met aujourd'hui dans un état effroyable, parce que l'idéologie écologiste telle qu'elle est portée par ces militants écologistes qui ont fait du nucléaire leur bête à abattre, si je puis dire, a fait en sorte que les gouvernements, d'abord, se sont pliés à leurs exigences et à leurs intimidations. Ils ont fait en sorte que nous ne pouvons plus actuellement avoir la souveraineté sur notre énergie, que nous sommes priés maintenant par le ministre de l'économie de porter des cols roulés et de
vous appelez à la sobriété.
Enfin bon, une sorte de d'état tout à fait lamentable de tiers-mondisation de la France, alors même que naturellement si les gouvernements et si singulièrement ces présidents de la République avaient eu l'audace et la force morale et intellectuelle de résister. Il l'a fait, mais trop tard, à ses exigences des Verts, nous ne serions pas dans cet état catastrophique-là. Et je vous rappelle que Merkel a cumulé tout cela, puisque c'est en 2011 qu'elle-même a stoppé le programme nucléaire allemand après Fukushima, puis en 2015 s'est ouverte à cette immigration de peuplement, et donc elle a cumulé avec tout ceci un effondrement de l'Allemagne que l'on va voir apparaître, puisque maintenant il paraît que l'Allemagne va tomber en récession l'année prochaine, précisément parce qu'elle a manqué d'énergie, et parce qu'elle a mal géré également son problème d'assimilation de peuples venus plus très majoritairement des pays musulmans. Donc voilà quelques exemples d'un effondrement, d'un aveuglement de l'idéologie. Et ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, avec en effet ce retour du bon sens, ce retour des peuples et des nations, c'est effectivement une grande révolution réactive, pourrait-on dire presque réactionnaire, dans le sens d'un refus effectivement d'aller plus loin dans
un progrès. Ça veut dire que cette vague populiste, elle pourrait arriver en France, qu'on a observé en Italie, ça pourrait être le cas en France.
Mais cette vague populiste, elle parcourt toute l'Europe et elle parcourt naturellement la France, bien sûr. On l'a vu à travers les dernières législatives, par exemple. Vous savez, il y avait une étude de la Fondapol que j'ai déjà citée ici, je crois, qui montrait que pour le premier tour des législatives, 77% des Français, des électeurs, ont choisi des partis anti-système. C'est-à-dire que le grand dégagisme qui se voit un peu partout dans les élections européennes se voit également naturellement en France. Et je fais le souhait effectivement que ce populisme-là, qui n'est pour moi pas un gros mot, c'est-à-dire simplement l'irruption du peuple dans son expression démocratique la plus pure dans le fond, que ce populisme-là qui a des comptes à demander en effet non pas aux élites en général, mais à ces élites qui se sont évertuées à tromper le monde à travers leurs œillères et leur prêt-à-penser faux, que ces élites-là, en effet, n'aient plus et à laisser la place, en tout cas.
Gabriel, cette vague populiste, elle peut accéder au pouvoir en France, selon vous ?
Et de fait, les résultats des dernières élections présidentielles comme législatives, mais peut-être surtout législatives, parce que c'est un mode de scrutin qui n'était pas du tout favorable, par exemple, au Rassemblement national, et cependant, ils ont réussi à faire une incursion, montrent que, de fait, la France pourrait a déjà un ferment de populisme. Alors, pourquoi l'exemple de Giorgia Meloni ou celui de la Suède donne des ailes à certains, par exemple, je pense à Nicolas Dupont-Aignan, hein, qui a appelé à l'union dans son université de rentrée entre LR, Reconquête et le RN, c'est parce qu'ils ont réussi à faire une union qui est aujourd'hui interdite en France par ce magistère de gauche qui a été terrible. Vous avez raison de le dire, on pourrait prendre un par un tous les mots aujourd'hui, qui l'éducation, la justice, l'immigration, la drogue, et se demander pour lequel de ces mots la gauche n'a pas de responsabilité, très honnêtement. Alors la droite en a une aussi, parce qu'elle a toujours couru derrière la gauche, et surtout parce qu'elle acceptait ce magistère moral, c'est-à-dire qu'elle complexait, elle s'est laissée taper sur la tête à chaque fois qu'elle tentait d'avoir un son dissident. Je vois la ville de Grenoble, par exemple. Je me souviens, il y a 10 ans, du discours de Nicolas Sarkozy, je crois qu'on appelle ça d'ailleurs le discours de Grenoble. À l'époque, il avait dit, mais vraiment, il faut faire quelque chose à Grenoble. Et 10 ans après, on est toujours dans la même situation, hélas. Donc, oui, évidemment, tout peut arriver, tout cela peut arriver, mais... beaucoup de Français, je le sens vraiment, ce sentiment que peut-être que c'est presque irréversible ce qui nous arrive. Il y a un grand sentiment de résignation et de d'aquabonisme, voyade, ou de tout effoutouisme, si vous m'autorisez l'expression. Et c'est sans doute contre cela que va se heurter une opposition populiste en France. Et de fait, il y a quand même des choses qui se sont passées, une structure de l'Europe qui rendent un retour en arrière ou une autre voie assez compliqué à emprunter.
Allez, on marque une pause face à Rioufol, revient dans un instant et on parlera de la situation en Ukraine et cette question, est-ce que nous allons vers la guerre généralisée ? L'avis d'Yvan Rioufol dans un instant. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Face à Rioufol, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va s'intéresser à la guerre en Ukraine, mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités avec vous, Arthur Muriot.
à la une de l'actualité, ces chiffres inquiétants concernant les trafics de drogue dans les villes moyennes de France. Une situation révélée par la directrice de l'Office anti-stupéfiants. Stéphanie Charbonnier accorde une interview à nos confrères du JDD. Les habitants et les forces de l'ordre des villes moyennes de plus en plus inquiets face à la multiplication des points de deal. Les précisions de Maureen Vidal.
Fini la réputation de narco-banditisme réservée aux grandes villes. En France, de plus en plus de villes moyennes et métropoles régionales sont prises d'assaut par les trafiquants de drogue. Dans un classement de 20 villes comptant le plus de points de deal, Avignon, Reims, Besançon ou encore Cambrai y apparaissent. Une question liée à l'offre et la demande, selon Stéphanie Charbonnier, directrice de l'Office anti-stupéfiants.
Tout part de la demande des consommateurs qui augmente fortement dans ces villes moyennes. C'est un peu la loi du marché, les points de deal sont directement connectés à la demande locale.
En collaboration avec les acteurs locaux de ces villes moyennes, l'Office anti-stupéfiants a intensifié les opérations anti-narco-business.
Sur les 8 premiers mois de 2022, il y a eu 9100 opérations visant des points de deal, ce qui représente près de 1000 actions par mois.
Accompagnatrice de Gérald Darmanin en Guyane ce week-end, Stéphanie Charbonnier avait confirmé la présence de cocaïne guyanaise dans certaines villes moyennes françaises.
La lutte contre les trafics de stupéfiants, également une priorité pour le préfet de police de Paris. Pour Laurent Nounès, ces trafics sont au centre de la délinquance qui mine la capitale. On l'écoute.
Nous luttons contre les trafics de stupéfiants parce que nous savons très bien que derrière le trafic de stupéfiants, qui sont évidemment des délits et des crimes extrêmement graves, il y a toute une forme de délinquance qui vient se greffer, des formes de violence, des contrôles de quartier, des vols violents pour pouvoir se procurer ensuite des stupéfiants ou des armes. Donc pour nous, le trafic de stupéfiants, c'est vraiment une priorité, c'est la priorité du ministre. Et donc la meilleure façon, évidemment, de se débarrasser de tous les faits et ces faits qui sont décrits, c'est de lutter toujours plus efficacement contre les trafics de stupes où nous avons d'excellents résultats.
Santé à présent avec la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid qui débute ce lundi en France. Une quatrième dose avec des vaccins adaptés aux variants Omicron. Mais où en est l'épidémie? Les Français sont-ils prêts à se faire piquer une nouvelle fois? Réponse avec Michael Dos Santos.
Dans cette pharmacie de la région parisienne, les clients ne se ruent pas sur la quatrième dose.
C'est plus dans les tests qu'ils se précipitent. Tout de suite, ils ne pensent pas au rhume ou à la trachéite ou à la bronchite, mais ils pensent au Covid.
Certains n'ont pas attendu la nouvelle campagne de rappel anti-Covid lancée dès demain par le gouvernement.
Je l'ai faite au mois de mai, voilà, parce que je n'ai pas envie d'attraper un Covid fort.
Je suis dans la tranche d'âge susceptible de partir des pieds devant.
Chez les plus jeunes, la quatrième dose est loin d'être une évidence.
J'ai tombé malade après la troisième. Je pense qu'un quatrième, c'est un peu too much.
Moins qu'il y ait une communication peut-être un peu plus claire des autorités. Pourquoi pas, mais sinon là tout de suite, pas spécialement. Non.
Dans son dernier rapport publié vendredi, Santé publique France a recensé 48 261 cas, plus 28,6% en une semaine. Du côté des hospitalisations, elles ont également bondi de 41%. Une accélération de la transmission du virus due en grande partie aux non-vaccinés. Ce professeur d'infectiologie les met en garde.
Le virus actuel est tout aussi dangereux que le virus initial. Donc ne pas être vacciné, c'est se mettre en danger.
La nouvelle campagne de rappel avec des nouveaux vaccins adaptés à Omicron pourrait freiner la progression du Covid. La majorité des cas positifs concerne ce variant.
Les Français n'ont pas le moral, à en croire le premier baromètre CSA pour le JDD. Et c'est l'inflation qui pèse sur l'humeur des citoyens. Autre enseignement, les moins de 35 ans ont davantage le moral que les retraités, les cadres, plus que les catégories populaires. Les précisions avec Sandra Tchombo.
Après une embellie en août, le moral des ménages est reparti à la baisse en septembre. Selon l'INSEE, la confiance des consommateurs recule de 3% par rapport au mois précédent, 79 contre 82. Dans le détail, grâce à ce baromètre CSA pour le JDD, première information et pas des moindres, les Français sont plus confiants pour eux-mêmes que pour le pays. 67% sont optimistes quant à leur avenir personnel contre seulement 31% quant à l'avenir de la société. Les sondés ont été répertoriés par catégorie. On s'aperçoit que les moins de 35 ans ont davantage le moral que les retraités, les cadres plus que les catégories populaires et les sympathisants de Renaissance plus que ceux du Rassemblement national. Au centre des préoccupations des Français, l'inflation. 52% sont pessimistes sur l'évolution de leur situation financière. financière, 25% sur leur situation personnelle. L'emploi se porte relativement bien en France avec un taux de chômage de 7,4% au deuxième trimestre selon l'INSEE. Conséquence, les craintes liées au chômage restent à un niveau bas, 12%. Autre source d'inquiétude pour les sondés, la société française, 23% trouvent que le contexte politique pèse, 13% sont insatisfaits de l'action du gouvernement. En revanche, d'autres thèmes jouent moins sur leur morale, comme l'insécurité, l'environnement ou encore l'immigration à 7%.
À Paris, une manifestation de soutien au mouvement iranien a eu lieu ce dimanche, alors qu'au moins 92 personnes ont été tuées en Iran depuis deux semaines. Le point de départ, la mort de Mahsa Amini le 16 septembre, arrêtée par la police des mœurs. Le pouvoir entend ne rien lâcher. Partout dans le monde, des rassemblements de soutien se sont organisés. Écoutez ces manifestants dans la capitale ce dimanche.
C'est une révolution qui a commencé par les femmes iraniennes. J'étais sûre et certaine qu'un jour ce pays sera libéré par des femmes.
Nous avons le même combat, nous avons les mêmes inspirations, c'est-à-dire la démocratie, la liberté et la dignité.
Solidarité absolue, c'est la liberté, la défense pour les femmes, le pouvoir de s'exprimer, la démocratie.
C'est l'une des premières fois qu'une lutte qui dure depuis des décennies commence vraiment à ressortir et à avoir un impact dans la société française.
Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 20h30.
Merci Arthur. De retour sur le plateau de Face à Rioussol, on va s'intéresser avec vous, Yvan, sur la situation en Ukraine après les référendums dans le Donbass et les provinces reliant la Crimée et qui ont plébiscité le rattachement de ces territoires ukrainiens à la Russie. Yvan, est-ce qu'on assiste à un tournant dans ce conflit entre les deux pays ?
Oui, incontestablement. Là, nous assistons à un basculement civilisationnel. C'est l'équilibre du monde qui a été bousculé par cette conférence de presse de Vladimir Poutine, qui dépasse très largement le conflit frontalier entre l'Ukraine et la Russie, bien entendu. Là, nous sortons de cette envergure géoterritoriale pour tomber dans une envergure géopolitique où, en effet, vous avez le monde alternatif qui est apparu depuis quelques années et qui se consolide aujourd'hui au prétexte de cette Russie qui est agressée, selon eux, par les États-Unis. Vous avez tout un monde qui est constitué par notamment la Chine, l'Inde et l'Iran et d'autres grands pays qui jusqu'alors n'apparaissaient pas dans les radars, qui est en train de contester l'hégémonisme de 5 siècles occidental. Dans le fond, c'est ainsi que se pose aujourd'hui le problème. Et c'est d'ailleurs ainsi que Vladimir Poutine a posé cette nouvelle stratégie qui dépasse donc très largement un conflit pour devenir une sorte de choc de culture, de choc de civilisation. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, en effet, on aurait pu penser que le choc de civilisation aurait fait s'affronter la civilisation islamique à la civilisation occidentale. Or, on s'aperçoit que ce choc de civilisation-là, que je n'avais pas vu venir, et je pense que beaucoup comme moi ne l'avait pas venir, est un choc de civilisation qui va voir s'affronter au cœur même du monde chrétien, du monde catholique, du monde chrétien en tout cas, un monde orthodoxe face à un autre monde orthodoxe, notamment avec des alliances incongrues du côté russe, puisque l'on voit que les Russes se sont alliés également avec le régime islamiste de l'Iran, dont on a parlé des méfaits tout à l'heure. Donc il y a maintenant une envergure mondiale, naturellement, qui est à prendre en considération, même si naturellement les référendums qui ont été suscités par la Russie ne tiennent pas, juridiquement ne tiennent à rien. Là, on voit bien que c'est un monde fictif qui se crée là. Simplement, c'est un monde fictif qui aujourd'hui fait en sorte que d'abord la Russie a pris prétexte de cette nouvelle souveraineté pour se rendre en état de légitime défense à la moindre poussée ukrainienne sur ses nouveaux territoires, et donc qui peut lui donner prétexte également. Poutine a dit qu'il se gardait de prendre tous les moyens de recourir à l'arme nucléaire, ce qui naturellement donne une envergure apocalyptique, si je puis dire, à tout ceci. Et donc ce que l'on voit apparaître, encore une fois, c'est précisément tout cet effondrement très généralisé. Je ferai le lien avec le sujet précédent, c'est qu'à chaque fois, nous avons une sorte d'apocalypse qui se génère, qui s'accumule. Et apocalypse étant à prendre dans le terme, dans le fond générique de sa racine grecque, qui veut dire révélation. L'apocalypse, c'est une révélation. Et je pense que, alors naturellement, je ne souhaite pas du tout l'apocalypse qui serait une apocalypse nucléaire, mais ce que nous voyons là apparaître, ce sont des révélations successives de déséquilibres qui ont été entretenus pendant des siècles concernant l'Occident et son hégémonisme, ou durant des décennies concernant les idéologies mondialistes qui, dans le fond, toutes deux sont remises en question par ces nouveaux pays émergents.
Vous parleriez, vous aussi, Gabriel, d'une guerre de civilisation, d'un choc de civilisation dans ce conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie ?
De fait, dans sa conférence de presse, Vladimir Poutine a compris quelle était la faille et quelle était la façon la plus intelligente pour lui de se faire l'étendard d'une contre-civilisation, si tant est que l'Occident tel qu'on le voit aujourd'hui soit la civilisation occidentale dans son entièreté, parce que ça, c'est un peu complexe. Moi, ce que je vois, et je pense qu'il faut remonter aux sources, c'est que quand le rideau de fer s'est effondré, on s'est rendu compte, et tous ceux qui sont allés dans ces pays de l'Est, que ce soit la Russie, la Hongrie, la Pologne, et d'ailleurs qui peuvent être ennemis, hein, c'est pour ça que c'est aussi simple que ça, la République tchèque, enfin, se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas suivi ce que Michel appelle ce ruban de Möbius libéral-libertaire, hein, de mondialisation accrochée à la société libertaire qui, chez nous, est post 68 art, mais qui a existé partout dans les années 60 et qui a évolué très capitaliste, qui a évolué à marche forcée et qui a estimé que ces valeurs étaient universelles et qu'elles devaient les imposer. Quand il parle de colonialisme, il sait de quoi il utilise ce mot à bon escient pour mettre du poil à gratter, en tout cas parce que ce sont effectivement presque un réflexe colonialiste nos valeurs, elles sont universelles. Si vous n'adoptez pas nos valeurs, vous n'êtes pas bien. C'est-à-dire que nous sommes l'alpha et l'oméga de la vertu. Donc ça, il a exploité cela. Et c'est vrai que ça gratouille, si j'ose dire, aussi bien chez les conservateurs populistes tels que nous les connaissons, nous, en Europe, que chez les islamistes dans les pays africains qui n'ont pas envie de se laisser imposer cette société mondialisée, libertaire, telle que nous l'avons, l'Occident, avec en tête de proue les États-Unis. Donc là, il joue sa partition, mais ce n'est pas encore une fois aussi simple que cela, puisqu'un pays comme la Pologne est très conservateur sur le plan des mœurs, et pourtant très opposé à la Russie pour d'autres raisons historiques, et parce qu'ils ont toujours eu très peur de la Russie. Donc la partition n'est pas aussi simple que celle-là. Mais moi, le point que je ne vois jamais soulevé, alors j'en profite, puisqu'on parle de l'Ukraine et de la Russie, et ça m'étonne qu'on n'en tire aucune leçon, c'est que dans cette lutte effrénée de Vladimir Poutine pour démontrer que cette partie, notamment le Donbass, est russe et que n'est pas ukrainien, et il agrège un certain nombre d'experts qui disent bah oui, c'est plutôt russe parce que ça a été peuplé de nombreux russes, et puis il parle russe, des populations russophones, eh bien, on ne tire pas de leçon. C'est-à-dire qu'on ne transporte pas sans effet potentiel des populations avec leur socle culturel, avec leur langue aussi. Vous savez, Albert Camus disait « la langue, c'est ma patrie », la langue française, c'est ma patrie », dans un territoire sans que ça change considérablement ce territoire et que ça expose à des luttes. Je rappelle que le Donbass, eh bien, ça a été par deux fois colonisé, enfin au sens en tout cas investi sur le plan démographique par les Russes, et qu'à un moment, dans les années 50, on a interdit de parler ukrainien là-bas, on parlait russe. Eh bien, quand vous avez des territoires, je fais une comparaison avec l'Europe, les vagues migratoires poseront des problèmes à terme d'appartenance culturelle. Peut-être que certains territoires, hein, à partir d'un moment où il y aura une masse démographique critique, se diront « mais est-ce que nous sommes réellement français ?» Je pense qu'il faut tirer les leçons du présent pour le futur.
Alors, pour revenir sur cette guerre en Ukraine, Yvan, est-ce que ce serait une erreur de penser que les pays ne se bousculent pas pour soutenir la Russie ?
Il ne se bouscule pas, non, bien sûr, mais parce que la Russie est indéfendable. On voit bien d'ailleurs que les Chinois sont en train d'essayer de freiner les ardeurs de Vladimir Poutine. Mais de laisser à penser que la Russie serait pour autant isolée serait une erreur d'analyse. Parce qu'encore une fois, lors du dernier sommet de Shanghai il y a 15 jours à Samarkand, on a bien vu que tous ces pays dont je vous ai parlé, avec la Chine en premier lieu, qui est quand même un pays considérable,
l'Inde, l'Iran,
etc., qui s'affrontent très directement aux États-Unis, tous ces pays pays-là, on fait un pacte, en tout cas un pacte d'honneur, même si effectivement ils sont libres ensuite d'acquiescer ou non aux méthodes très brutales de Poutine. Ça, on ne reviendra pas là-dessus. Mmh. Et puis je vous rappelle que les non-alignés représentent quand même, ça représente 40% des pays qui n'ont pas voté les résolutions de l'ONU concernant la condamnation de la Russie, ça représente 60% de la population. Donc, y a tout un monde aujourd'hui qui ne supporte plus les leçons de morale de cet Occident qui est qualifié d'hypocrite. Et en effet, d'ailleurs, on peut se demander si cette accusation n'est pas parfois valable, puisque l'on a bien vu que l'Union européenne, afin de pallier le manque de gaz et de pétrole qui provenait de Russie, va aller le chercher en Azerbaïdjan, qui lui-même est un pays qui est en train d'agresser un pays chrétien qui est celui de l'Arménie. Donc il y a bien des incongruités, il y a bien en effet des hypocrisies. Je ne veux pas alimenter ce procès-là, parce que c'est un procès très désagréable pour nous, puisque c'est le procès de ce que nous sommes devenus également, de l'Occident. Et en même temps, c'est un procès que l'Occident s'est déjà fait lui-même. C'est-à-dire que l'Occident est assez grand pour voir quelles sont les faiblesses de ses propres dérives. Et nous sommes les premiers ici à en parler très régulièrement quand on parle des dérives woke ou quand on parle des dérives multiculturelles ou du genre, etc. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine habilement s'en est moqué aussi en disant qu'on marchait sur la tête, grosso modo. Et de ce point de vue-là, il a raison, mais je ne veux pas avaliser pour autant le procès que fait Poutine de l'Occident, d'autant que si Poutine voit cet Occident-là, d'abord qui était proche de lui il n'y a pas si longtemps que ça, le voit maintenant comme une sorte d'épouvantail. C'est un Occident qui est encore de beau reste, excusez-moi, mais le génie occidental, même si naturellement il est très abîmé aujourd'hui par tous ces délires que l'on voit et que nous dénonçons, c'est vers l'Occident que se dirigent tous les peuples qui cherchent l'exil. Ils ne vont pas en Russie, pas tellement non plus en Iran, ça serait pas beaucoup plus en Chine, la Chine s'est fermée. Et donc tous ces pays-là continuent à penser que l'Occident, qui représente le monde libre dans le fond, le monde libre dans tout ce que l'Occident a pu apporter de liberté et de lumière au peuple du monde, cet Occident-là a encore de beaux restes, si je puis me permettre. Et on se souvient de la fascination du monde, lors des obsèques d'ailleurs de la reine Elisabeth, où l'on l'a bien vu, qu'il y avait quand même une sorte d'attraction, ou en tout cas de sidération à voir que ce monde-là pouvait encore interpeller une grande partie de la planète. Donc le procès qui est fait à Poutine face à l'Occident, je le prends tel qu'il est aujourd'hui, on n'a pas à le regretter ou pas le regretter, il faut l'entendre, car c'est en effet la fin d'un monde, c'est un basculement civilisationnel incontestable. Je ne sais pas où il peut aller. Simplement, ce que je remarque, c'est que dans cet affrontement de civilisation qui maintenant se détermine, ou sur un champ de bataille qui est davantage délimité, je ne vois pas de discours qui prônerait l'apaisement. Je vois tout au contraire une Madame von der Leyen qui a encore quelques temps, un mois à peine, je crois, a dit qu'il n'était pas question d'aller vers l'apaisement. Donc, ma crainte est tout à fait réelle de penser que nous allons vers le gouffre.
Alors, vous êtes inquiet, donc je vous pose la question, Gabriel. Est-ce que vous êtes inquiète, vous, aujourd'hui ?
Oui, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter, de fait. C'est évident, parce que on ne brandit pas l'arme nucléaire impunément. Et l'arme nucléaire, par définition, c'est une arme qui est faite pour ne pas être utilisée, en principe. Elle est là pour être dissuasive. Donc évidemment, ça fait peur. C'est vrai que ça peut aussi attrister profondément. Hein. Vous parliez de deux mondes chrétiens qui s'affrontaient. Je crois que le pape est tout à fait démuni face à ces... Et il essaie...
Il a supplié Vladimir Poutine ce matin, d'ailleurs.
Parce que c'est assez terrible de voir ces deux mondes s'affronter. Et c'est vrai que la guerre est partout et la paix est nulle part, de toute évidence. Et on ne sait plus qui, aujourd'hui, pourrait réussir à faire marche arrière. Moi, je suis un petit peu inquiète aussi, je le dis, on en parle peu ou que de façon anecdotique pour en rire. Néanmoins, par l'état de santé aussi disons qu'on peut légitimement avoir quelques interrogations, tout simplement, sur l'état de santé de Joe Biden. Parce que c'est quand même une période qui n'est pas très pacifique, vous en conviendrez. Donc ça serait intéressant de savoir si c'est vraiment lui qui a été élu, qui est en pleine possession de ses moyens et pour diriger cette guerre, ou si ce sont d'autres. Mais je crois que légitimement, compte tenu des circonstances, ce serait intéressant de le savoir. Et évidemment, nous avons Vladimir Poutine, dont nous ne savons pas jusqu'où il ira. Moi, Vladimir Poutine, ça peut être aussi la guerre de trop pour lui. Il fait un peu penser à Bonaparte, vous savez. Bonaparte, il rêvait d'unir la France de l'ancien régime et la France de la Révolution, la France qui avait été grande, et puis il voulait l'élargir. Et finalement, Poutine fait un peu pareil. On le voit d'ailleurs dans tout l'aspect culturel de la Russie. Il a voulu réunir, réconcilier la droite des tsars et la Russie des tsars et la Russie de stalinienne, finalement, enfin la Russie soviétique. Et puis il a cette volonté, comme Bonaparte, de toujours avancer. Mais à la fin, Bonaparte, ça ne lui a pas réussi. Donc peut-être ça se terminera-t-il de la même façon ou pas, je n'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a lieu de s'inquiéter.
Et on arrive au terme de Face à Rioufol ce soir. Merci,
je
Yvan.
Regrette qu'on ait pu entendre Ferhat Mehenni.
Merci, Yvan. On vous retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, à la même heure. Merci, Gabriel. Dans un instant, Aymeric Pourbet, Enquête d'esprit. Puis je vous retrouve à 22h pour Info du Monde. Restez avec nous sur CNews. Très belle soirée sur notre antenne.
A change of seasons means adventures in rain, shine, mist, or snow, or all of the above on the same day. This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. With all-condition traction and materials and features to keep you comfy and dry no matter what, you'll be ready for anything. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. Allbirds.com, code FRESHSOCKS.